Nous allons aujourd'hui vous parler de la circulation internationale des idées et des pratiques d'égalité entre les sexes, hein, donc dans le cadre de la mondialisation. Celle-ci a commencé il y a fort longtemps, on peut parler déjà de la traversée du détroit de Bering et autres, mais elle s'est intensifiée à partir du XVIe siècle, hein, avec la mise en relation assez douloureuse des Amériques et de l'Europe, hein. Et donc, cette mondialisation a été aussi le vecteur de changement des relations entre les sexes. La colonisation a souvent, contrairement à son idée, à l'idée qu'elle a diffusée, elle a plutôt été négative pour les relations entre les sexes. Et tout ça s'est aggravé avec le Code civil Napoléon de 1804 qui s'est répandu à travers l'Amérique latine puis l'Afrique, en coalescant une certaine obéissance envers l'époux.
Les mouvements féministes qui vont se structurer à la fois à l'échelle française, mais aussi au-delà des contextes nationaux en Europe et dans le monde à partir des années 1870, eh bien, vont connaître une accélération dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment à la faveur de la modernisation des moyens de transport et de communication. Les 30 dernières années ont en effet été marquées par cet essor de la circulation internationale, à la fois des personnes, des militants et des militantes de l'égalité entre les sexes, des pratiques, mais aussi de leurs idées, et ont également été marquées par une mise à l'agenda, à la fois au niveau institutionnel, par exemple avec l'Organisation des Nations Unies, l'Union Européenne ou les États, mais également sur le plan associatif avec le rôle joué par les organisations non gouvernementales et les mouvements féministes. Depuis une trentaine d'années, les paradigmes du gender mainstreaming et de l'empowerment ont ainsi émergé à la faveur de cette montée en puissance de la mondialisation et du libéralisme économique. L'idée de ce module, du local au global, c'est donc de faire jouer les jeux d'échelle, d'analyser ces allers-retours entre les différents niveaux de territoire pour saisir les dynamiques de l'égalité entre les sexes, à la fois du point de vue du droit, mais aussi du point de vue des pratiques. Et ce, autour de quatre grandes thématiques, la question des droits civils, la question de la citoyenneté, celle des inégalités socio-économiques, et enfin les droits reproductifs et sexuels.
Nous allons donc voir maintenant quelques définitions concernant trois termes qu'on va employer tout au long de ce cours. Premièrement, égalité. Deuxièmement, féminisme. Et troisièmement, globalisation. Ce n'est peut-être pas très joli, on dit aussi mondialisation. En effet, même derrière les mots les plus simples, plusieurs significations peuvent se percuter. Et donc, pour que nous employions les mêmes mots avec le même sens, on va prendre le temps de décortiquer un petit peu ces différentes notions. Donc, la première définition sur laquelle on va réfléchir, c'est celle du terme égalité. Ça peut paraître bizarre de réfléchir sur la notion d'égalité. Mais par exemple, si vous regardez le rapport à la Convention pour l'élimination des discriminations envers les femmes, dite CEDEF, du Koweït en 2003, vous verrez que ce pays considère qu'il remplit totalement les conditions de l'égalité entre les sexes. Pour nous qui voyons ces femmes enveloppées d'un chador très noir, qui ne peuvent pas travailler souvent, qui doivent demander l'autorisation de leur conjoint pour la contraception, ce n'est pas ce qu'on met d'habitude sous les termes égalité. Parce qu'en fait, pour le Koweït, hein, il y a un ordre des sexes qui est défini par le Coran, et donc, si l'on suit cet ordre des sexes, eh bien, il y a égalité. Si l'on donne, comme le veut le Coran, seulement la moitié de l'héritage à une fille par rapport à un fils, hein, c'est tout à fait légitime, puisque la femme n'est pas supposée subvenir aux besoins du ménage, alors que le mari l'est. Donc, c'est en fonction d'un certain ordre que le COET considère qu'il y a égalité. Nous, on peut penser dans ce cours que on préfère utiliser une autre notion d'égalité. Et donc, on va d'abord définir et différencier l'égalité de l'équité. L'équité, c'est aussi une notion qu'on trouve, alors là, pour le coup, souvent en Amérique latine. On va vous dire qu'il y a équité de genre. Qu'est-ce que c'est que l'équité ? Ça veut dire qu'on traite chacun selon ses besoins. Donc, dans le cas du COET, si on donne la moitié d'héritage, c'est tout à fait conforme aux besoins des femmes qui ne sont pas supposées subvenir à leurs besoins. Ou de même, de façon plus générale, on va dire qu'il est normal. On pourrait dire qu'il est plus normal que quelqu'un de grand et de gros mange plus que quelqu'un de petit et de maigre, puisqu'il a moins de besoins. Donc, c'est ça l'équité. Et donc, souvent, on emploie ce terme en le différenciant de l'égalité qui serait abstraite, puisqu'elle ne tiendrait pas compte des besoins des uns et des autres. Alors, une autre différence qu'on fait, du coup, souvent, et c'est la notion d'égalité effective. Souvent, on considère, notamment en Amérique latine, on va souvent utiliser équité, non pas dans le sens que je viens de définir, mais dans le sens d'égalité effective. C'est-à-dire avec l'idée qu'il faut des discriminations positives pour compenser une situation. Mais quelqu'un de maigre, on va plutôt lui donner plus à manger pour qu'il grossisse plus, par exemple. Donc, c'est trois niveaux, égalité, équité, égalité effective, qu'il est important de différencier. Et il faut employer le terme qui correspond à nos idées et définir ce que l'on entend par là. Un autre point important sur cette notion d'égalité, c'est que souvent on oppose égalité ou inégalité et identité. Or, être égal ne signifie pas être identique. Ça ne porte pas, absolument pas, sur la nature profonde de l'être qui est en face de vous. L'égalité, ça concerne uniquement la répartition des tâches, des rôles et des responsabilités. Donc il s'agit d'une notion plutôt sociale et éthique, et ça ne concerne absolument pas les notions plus psychologiques, dirons-nous, d'identité. Une autre distinction que l'on utilise souvent, c'est la distinction entre égalité d'opportunité ou égalité des chances ou égalité effective. On va vous dire qu'il faut donner les mêmes chances aux individus, c'est-à-dire qu'il faut ne pas mettre de barrières sociales ou par rapport à l'accès à tel ou tel bien. On va vous dire que une fois qu'on a mis en place, par exemple, l'école gratuite, il n'y a rien pour les garçons et les filles, par exemple, et qu'on a aboli les discriminations d'accès, il n'y a rien d'autre à faire. On a donné l'égalité des chances aux uns et aux autres. Mais en réalité, on sait qu'il y a bien d'autres barrières, par exemple psychologiques, par exemple des barrières concernant les stéréotypes, ce que l'on attend des uns et des autres, qui vont faire que, eh bien, même s'il y a une égalité d'opportunité, l'égalité effective n'est pas vraiment là. Et donc, dans ce cours, hein, ce qui nous intéresse, d'une part, ça va être l'égalité, et d'autre part, cette égalité, pour nous, ça doit être une égalité effective. C'est-à-dire que lorsqu'on entend, vous entendrez parler dans ce cours d'égalité, bien, ça ne voudra pas dire égalité des chances, ça ne voudra pas dire équité, ça voudra dire égalité effective. Et il faut noter que la notion moderne d'égalité est liée à celle de citoyenneté et de droit, telle qu'elle a été définie par Alfred Marshall. Alors Alfred Marshall, c'était un théoricien anglais et qui lui a surtout parlé de trois types d'égalité, de droit, pardon. des droits civils, hein, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir, de ne pas être serf, par exemple, d'avoir le droit de d'avoir un nom. Bon, il parle aussi de l'égalité politique, hein, donc le droit de voter et d'être élu. Et puis il parle aussi de droits économiques et sociaux. Et donc il va être en faveur d'une protection sociale pour tous. Hein. Alors Alfred Marshall a établi sa typologie en tant qu'homme anglais, c'est-à-dire que pour lui, il y a d'abord eu les droits civils, puis les droits politiques, puis les droits économiques et sociaux. Vous voyez bien que pour les femmes, ça ne s'est pas passé du tout de cette façon-là. Elles ont souvent eu les droits économiques et sociaux, par exemple des droits liés à la maternité, avant d'avoir des droits politiques et civils. Donc il y a une question par rapport à sa chronologie, mais il y a aussi une question par rapport aux droits reproductifs, hein, c'est-à-dire à l'accès à la contraception, à la sécurité de l'accouchement, à l'avortement, toutes ces questions qui ont été soulevées depuis longtemps, hein, puisque Nelly Roussel au XIXe siècle en parlait déjà, même si elle n'employait pas le terme, mais qui a été surtout posée de façon très importante par les mouvements transnationaux à partir de la fin des années 70. Maintenant, nous allons parler des termes féminisme et féministe. Donc ce sont les idées qui promeuvent l'émancipation des femmes. On en parle aussi pour parler des mouvements qui défendent l'égalité entre les sexes. Hein. Et du coup, on en parle aussi pour parler des militants qui s'engagent. Maintenant, le féminisme, il y a quand même de très nombreuses variantes et toutes les féministes ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres. Néanmoins, il y a quelque chose qui les unit, c'est un système de pensée critique par rapport au patriarcat, par rapport à l'idée que les hommes ont du pouvoir sur les femmes. Tout ce qui relève de la différence et de la hiérarchie entre les sexes. Ou, on peut pour le dire autrement, de la question des privilèges masculins, que ce soit par rapport au salaire, par rapport autrefois c'était aussi par rapport à la possibilité de décider pour les enfants, par exemple, et la subordination des femmes. Et donc, tous les mouvements féministes se sont construits à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national et ensuite au niveau international. Là, on parle souvent de solidarité internationale, mais il faut bien dire que le mouvement ne concerne pas forcément des États, il concerne plus des associations, des femmes. Et donc on parle d'un mouvement transnational, c'est-à-dire qui passe entre les nations. Alors ce mouvement, là vous avez une citation de Madame Avril de Sainte-Croix en 1855, qui considère que c'est un mouvement qui va en avant et qu'aucune force ne pourra enrayer désormais. On verra qu'il y a eu bien des forces pour l'enrayer, pour le limiter, et que le résultat de ce mouvement est très variable d'un pays à l'autre. Alors il y a un autre terme qu'on emploie parfois pour féminisme, c'est le mouvement des femmes. Voilà, des femmes engagées en lutte contre le patriarcat. Et puis parfois, on l'emploie de façon plus vaste. On va parler de mouvements des femmes révolutionnaires pendant la Révolution française qui ne sont pas forcément contre le patriarcat, mais qui sont néanmoins, qui agissent ensemble avec le même objectif. Hein. Et en Amérique latine en particulier, on parle souvent du mouvement ample des femmes, pour parler y compris de femmes qui vont revendiquer pour l'accès au logement, pour l'accès à de l'alimentation, pour l'accès à toutes sortes de services, et qui ne se définissent pas comme en lutte contre les hommes, mais qui se définissent comme des femmes ayant une identité propre et une fonction sociale, et en tant que telle, notamment une fonction de mère, et qui en tant que telle revendiquent. Et puis, il y a un troisième terme que l'on utilise aussi, qui est celui de l'espace de la cause des femmes, de Laure Bérény, qui est donc l'ensemble des collectifs luttants au nom des femmes et pour des femmes. Et donc, c'est un terme qui est, disons, un peu plus universitaire, un peu plus scientifique que celui du mouvement des femmes. Autant le terme de mouvement des femmes peut être utilisé par chacune qui a milité à un moment ou à un autre, autant l'espace de la cause des femmes, ça demande quand même d'avoir lu sur la question. Là, comme dans le mouvement des femmes, il n'y a pas de remise en cause frontale de la domination masculine. Néanmoins, ce sont des femmes qui vont être, par exemple, syndicalistes, hein, et qui vont lutter contre l'inégalité de salaire. Hein. Et donc, elles n'ont pas cette approche forcément très critique, mais elles ont une action qui peut avoir à long terme des effets, ou à court terme, des effets extrêmement bénéfiques pour les femmes. Et donc, on utilisera, en précisant à chaque fois, ces trois termes. Une autre chose qu'il faut noter, c'est que là, on a toujours dit « femme ». Mais un des apports les plus importants actuellement, c'est quand même cette notion d'intersectionnalité des oppressions. Alors, le terme est assez contesté, mais ce qui veut dire, c'est que finalement, il n'y a pas seulement l'oppression des femmes, il y a aussi celle liée à la racialisation des rapports sociaux, il y a celle aussi des classes sociales. Ça, toutes ces imbrications, ça a été fortement étudié, par exemple par Daniel Kargoat depuis très longtemps. Aux États-Unis, Angela Davis a écrit un très beau livre sur femmes, race, classe. Aujourd'hui, le terme qui a pris un peu d'ampleur, qui est utilisé, c'est le terme d'intersectionnalité des rapports sociaux pour évoquer ce croisement. Qui n'est pas seulement une question d'addition. Parce que quand on dit femme, race, classe, souvent, pas pour Angela Davis, mais pour d'autres, on va vous dire les femmes sont exploitées de cette façon-là, les personnes d'origine maghrébine de cette façon-là, et puis dans ce cas-là, on fait comme si tous les maghrébins étaient des hommes, et si toutes les femmes n'étaient pas exploitées, par exemple, qu'il n'y avait pas des maghrébines parmi elles. Et donc, le terme d'intersectionnalité, c'est pour dire que lorsque vous êtes une femme maghrébine, vous n'êtes pas exploitée de la même façon le plus souvent. Il y a souvent des attentes qui vont être différentes des attentes qui sont faites par rapport à des femmes blanches, par exemple. Et donc, il y a ces demandes différentes qui se manifestent, par exemple, assez fortement dans la politique familiale, hein, même en France, hein, dans les départements d'outre-mer. La politique était nataliste en France et antinataliste dans les départements d'outre-mer. Et donc, les femmes, d'un côté, n'avaient pas accès à la contraception, de l'autre, on essayait de leur imposer. Et ça, ça a été encore plus fort aux États-Unis. Donc, voilà, c'est ça l'intersectionnalité. Alors parfois, on préfère maintenant parler d'imbrication des rapports sociaux ou de consubstantialité, dire que tous les rapports sociaux sont interagissent et sont toujours mouvants. Bon, quel que soit le terme, l'idée, c'est quand même de garder ce fait que, l'espace de la cause des femmes, mais que cet espace de la cause des femmes, il n'est pas unifié, il y a des différences entre les femmes qui peuvent avoir des intérêts différents les unes des autres. Et le troisième terme qu'on va utiliser beaucoup, c'est celui de globalisation ou de mondialisation. Alors, cette globalisation, c'est une préoccupation très ancienne des pères de la sociologie, hein, aussi bien Karl Marx, Émile Durkheim ou Max Weber, ou encore Norbert Elias, en ont parlé. Ils ont parlé des formes spécifiques d'interdépendance qui relient les individus entre eux, y compris au niveau transnational. Donc tout ça, c'est déjà quelque chose d'ancien. Plus récemment, des auteurs comme Braudel, Wallerstein, Samir Amin ont évoqué l'importance actuelle de l'expansion du système monde capitaliste et la création peu à peu d'une histoire planétaire. C'est-à-dire qu'autrefois, les sociétés pouvaient vivre chacune plus leur propre vie sans être toujours interreliées, alors que peu à peu, les interrelations se font très fines et très multiples entre les différents États, les différentes communautés. Et tout ça a été tout à fait développé. Et on peut le voir aussi au niveau économique, hein, avec des régions qui sont de plus en plus intégrées à entre elles. Alors cette histoire de la mondialisation, elle a très souvent occulté les femmes. Et cela, on peut même dire que jusque dans les années 1970, jusqu'à ce grand mouvement social qui a existé dans de très nombreux pays, que ce soit la France, les États-Unis, le Mexique, etc., en Angleterre évidemment, en Espagne, bon, voilà, dans de très très nombreux pays, la question des femmes est apparue parce que justement les femmes étaient arrivées enfin aussi nombreuses que les hommes dans les universités et que du coup elles ont commencé à réfléchir à leur situation d'une façon universitaire, d'une façon qui pouvait aussi être prise en compte par l'université. Et donc, on a vu enfin des travaux comme ceux d'Esther Boserup, qui était une économiste danoise, hein, et qui a montré que les femmes étaient exclues par les politiques de développement. C'est-à-dire que même là où les femmes, de façon traditionnelle, jouaient un rôle très important dans l'agriculture, eh bien, les politiques économiques, inventées souvent à Washington ou à Paris, mises en œuvre par des experts français qui étaient habitués à cette idée que l'homme est le pourvoyeur et que la femme est là, est femme au foyer, ne comprenaient pas du tout, ne pouvaient même pas imaginer qu'en Afrique, c'était les femmes qui faisaient le travail de la terre. Et donc, elle a montré, au contraire, donc du coup, que les programmes de développement excluaient les femmes des tâches qu'elles faisaient autrefois et qu'il était très important de les inclure de nouveau. Donc, elles ont parlé de l'intégration des femmes dans le développement. Alors, évidemment, cette idée est assez proche de ce qu'on a appelé le féminisme libéral. C'est un féminisme qui ne remet pas en cause tout le système économique actuel et qui a tendance à considérer que si les femmes ont un revenu, et encore plus si elles sont salariées, elles auront plus de pouvoir, ce qui n'est pas toujours le cas, même si ça l'est quand même relativement souvent. Alors, par la suite, il y a eu un développement, donc on n'a plus parlé de l'intégration des femmes en développement, on a parlé de femmes et développement pour dire, mais les femmes n'ont pas à être intégrées au développement, elles le sont déjà, même si c'est sous une forme subordonnée, même si les experts occultent le rôle des femmes africaines dans l'agriculture, ça n'empêche pas les femmes de travailler et d'y être très présentes dans cette agriculture. Donc, il y a eu ce deuxième courant qui était le courant donc femmes et développement et qui concluait, lui, qu'il fallait une transformation économique et sociale pour que le rôle de ces femmes soit pleinement reconnu. Donc, c'est une théorie qui, elle, ne relève pas du tout du féminisme libéral, mais qui a été plutôt développée par des féministes assez proches des thèses marxistes et de la théorie de la dépendance. Et cela donc à partir des années 80. Et puis par la suite, à peu près à la même époque, il y a eu en fait une transformation et on a parlé de genre et développement. Et c'est une thèse qui va être assez centrale dans les années 90 et qui va dire que ce qui est intéressant, ce n'est pas de s'intéresser à la catégorie femme, hein, mais de voir quelles sont les interrelations entre les hommes et les femmes et quel est le système qui détermine tout cela. Donc on va vraiment développer tout un courant théorique à partir de cette position, avec notamment, je dirais, trois idées clés. La première, c'est l'opposition entre les besoins pratiques et les intérêts stratégiques. Donc dire que parfois, les femmes ont des besoins, elles ont besoin par exemple de quelqu'un pour garder leurs enfants. Mais ça ne veut pas dire que ça corresponde à leurs intérêts à long terme et que on peut répondre à des besoins pratiques sans répondre à des intérêts stratégiques hein, qui seraient, par exemple, qu'il y ait une prise en compte par le couple ou par la société de ce problème de garde-enfant, une transformation des relations. On évoque aussi la question du double fardeau, c'est-à-dire de la question à la fois de la production, qui seule est reconnue par la production notamment rémunérée, qui seule est reconnue par l'analyse économique, et puis de la reproduction, c'est-à-dire toutes les tâches liées à la reproduction des individus, donc la procréation, mais aussi de la reproduction sociale, du soin aux enfants, aux aînés, aux conjoints, etc. Tout ce qu'on va appeler aujourd'hui care, en prenant donc ce terme à la fois de besoin, de souci, d'éthique, donc lié aux tâches de soins aux autres. Et puis un troisième concept qui a été beaucoup utilisé, c'est celui de charge mentale, hein, pour dire que on peut mesurer par exemple le temps de travail domestique, et ça a été vraiment quelque chose qui a été beaucoup fait et qui a permis de montrer justement l'importance du temps de travail des femmes pour toutes les tâches de la reproduction, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi cette notion de charge mentale, c'est-à-dire que vous pouvez être en train de faire votre cours et en même temps vous êtes en train de penser « Ah, mais là je vais être en retard pour aller chercher mon enfant à l'école, et est-ce que j'ai bien acheté à manger, et demain il faut que je fasse ceci et cela ». Donc il y a tout un travail psychique qu'il est très difficile en fait de mesurer, et qui fait que les mesures strictes du temps domestique sont assez insuffisantes. Alors aujourd'hui, il y a eu une espèce de mise en relation de ces thèmes à la fois de la mondialisation et du genre, avec tous les travaux, notamment de Saskia Sassen, qui a fait toute une sociologie de la globalisation en évoquant beaucoup la transnationalisation et les changements en cours de la division sexuelle du travail dans la mondialisation, avec par exemple tout ce développement des migrations féminines pour s'occuper des enfants, des personnes âgées et des malades des pays du Nord, et donc toutes ces questions-là. Donc ça, c'est une lecture très utile, ainsi que tout ce qui relève du livre sur le sexe de la mondialisation, sur genre, mondialisation et pauvreté. Donc ça, c'est toute une série de livres dont vous pouvez vous nourrir et qui pensent ensemble la question du genre et de la mondialisation. Et il y a aussi une série de livres, mais là, qui sont plutôt plus souvent en anglais, qui vont parler des politiques d'égalité entre les sexes et analyser à la fois l'intersectionnalité, les transformations liées aux contextes transnationaux, les normes de gouvernance. Et malheureusement, ces livres-là sont très souvent en anglais. Donc voilà, j'espère que toutes ces définitions vous seront utiles et que vous les garderez en mémoire tout au long de ce cours. Et comme vous voyez, vous avez beaucoup de lectures très intéressantes qui peuvent aussi accompagner, si vous le souhaitez, ce module.